Service compris.
Et c'est Lise Jean-Bourquin qui avait rendez-vous avec Mike pour essayer de lui faire tenir ses bonnes résolutions. C'est déjà mal parti. Bonjour Lise.
Bonjour à tous.
C'est vraiment mal barré. Hein. C'est la période de l'année où on commence à essayer de se donner des bonnes résolutions à tenir pour l'année d'après. Et on va en parler ce matin dans Service compris.
Avec grand plaisir.
Et ouais. Donc parmi tous les thèmes abordés, les objectifs évidemment. Ça, c'est les premières choses qu'on essaie de tenir.
Mais oui, les objectifs, surtout comment les formuler pour ne pas tomber dans des pièges.
Oui, ouais, les acquis, en fait, c'est les acquis.
Exactement.
Les objectifs. C'est ce qu'on essaye de maintenir.
Ah, oui, qu'on essaye, effectivement.
Parce qu'en fait, les bonnes résolutions, ça peut être faire mieux, mais c'est aussi faire moins pire aussi.
Absolument. Ouais. Il faut savoir rester positif, c'est ça.
Restons positifs, on en parle d'ici quelques minutes dans Service compris sur Radio Fribourg. Et puis, on arrive juste après Ed Sheeran et Camila Cabello.
Radio FR.
Service compris.
Service compris.
Et aujourd'hui, nous parlons de tous ces objectifs qu'on se fixe en fin d'année pour démarrer comme il faut l'année suivante. On appelle ça les bonnes résolutions. Nous sommes avec Lise Jean-Bourquin. Bonjour, Lise.
Bonjour, Rio. Bonjour à tous.
Je vais vous laisser dire votre job, finalement.
Mon job.
Oui. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ?
Qu'est-ce que je fais de beau ? Je fais plein de choses qui me passionnent et j'ai beaucoup de chance.
Oui.
Je suis thérapeute en psychokinésiologie, aromathérapie et fleurs de Bach. J'ai un passé de musicienne professionnelle, donc ma vie est pleine de passions.
Ah, voilà. Ben ça fait plaisir. Donc là, avec des passions, il n'y a pas besoin de beaucoup de résolutions. Hein.
C'est ça.
Ça se fait tout seul.
Non, ça ne se fait pas tout seul. Et je pense que pour personne, ça se fait tout seul.
Ah ben, on va vérifier ça de plus près. Si vous aussi voulez nous parler de vos bonnes résolutions, quelles sont-elles pour démarrer l'année 2020 ? On a toujours notre WhatsApp qui vous est grand ouvert. 079 127 70 60. Parmi les bonnes résolutions qu'on peut se poser, c'est de devenir bénévole, par exemple.
Absolument.
Ça peut être une résolution. Et donc, Julien, lui, il a envoyé déjà un message pour nous inciter à devenir bénévole dans un domaine bien particulier. Ça se fait en chanson. Merci, Julien, pour la chanson qui est vraiment splendide.
0800 802 208. Si tu te sens fatigué, tu es conducteur et tu n'as pas la frite. Tu peux nous téléphoner.
Donc visiblement, Julien recherche des bénévoles pour l'opération Nez Rouge, puisque cette saison. Et donc, pourquoi se fixer des objectifs comme ça, par exemple, en début d'année, Lise ?
Alors, pour plusieurs raisons, pardon. D'abord, en début d'année, on a le sentiment de commencer quelque chose de nouveau. Hein. L'être humain, il est sensible au rythme depuis tout le temps. C'est rare qu'on veut commencer une nouvelle démarche un mercredi. Souvent, on se dit « je commence à partir de lundi » ou « à partir du premier du mois ». Et vraiment, la nouvelle énergie d'une année qui commence, c'est vraiment quelque chose à prendre au bon, parce que bien souvent, on arrive en janvier sur les rotules d'un mois de décembre qui est très chargé, à cause des fêtes scolaires, des repas de boîte.
Oui, en pleine semaine, visiblement, comme on disait.
En pleine semaine, voilà, des différentes manifestations, pour nous qui sommes beaucoup dans la musique, c'est vrai qu'on a beaucoup de concerts de Noël.
Mm-hmm.
En même temps, les repas de fête, c'est quelque chose qui nous pousse à faire plus tard le soir, donc on a notre rythme qui est un petit peu cassé en décembre. Et souvent, ça nous permet aussi de rentrer en réflexion, de savoir ce qu'on aimerait bien avoir pour janvier, ou disons ce qu'on aimerait faire évoluer pour la nouvelle année.
La réflexion, c'est entre les fêtes, quand on a un, deux jours de repos, où on peut se poser des questions. Hein. C'est peut-être déjà trop tard. Alors, résolution assez typique, que je dois dire que j'ai aussi dû prendre plusieurs fois dans ma vie le 1er janvier à minuit, c'est enfin... Arrêtez le tabac, nous dit-on sur le WhatsApp de Radio Fribourg. Ça, c'est un classique, ça. Hein. C'est Jackie qui nous le propose. On l'entend souvent, ça.
Hein. Ouais, en top de liste, on a aussi l'envie de perdre du poids, envie d'arrêter de fumer, envie de nouveaux projets professionnels ou envie de se mettre au sport.
Ouais,
mais
oui.
Tout ça, c'est bien vague, en fait. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça implique vraiment ?
Arrêter le tabac, c'est assez clair et net. Hein.
Oui, c'est assez clair et net, mais dès le moment où on enlève quelque chose dans notre vie, qu'est-ce qui va remplacer ?
Ah, c'est ça, c'est qu'il faut toujours... On est un vase communicant, en fait.
Je ne sais pas si on est vraiment un vase communicant, mais en même temps, quand on a vécu des années avec une cigarette à la main...
On doit trouver une solution.
Voilà.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il ne s'agit pas de remplacer une dépendance par une autre, d'accord ? Non, alors là, on s'éloigne un petit peu de l'objectif. Par contre, c'est intéressant de se poser réellement les bonnes questions pour ne pas tomber dans les pièges de la résolution qui dure juste le temps de trinquer à nouvel an.
C'est ça, donc la résolution typique, justement, qui est d'arrêter le tabac. Quelles questions faut-il se poser pour y arriver réellement, alors, par exemple, dans ce cas de figure précis ?
Alors, dans ce cas de figure précis, ce qui est intéressant pour moi, c'est de quand on formule un objectif, c'est de le formuler de manière à ce qu'il soit accessible sans être impossible à atteindre. Donc, de pas se poser la barre trop haute, de pas se la poser trop basse non plus. En fait, de trouver le juste milieu et le bon équilibre. Dans le cas de la cigarette,
bon, là, il n'y a pas de milieu.
Non, il n'y a pas de milieu, effectivement. Par contre, c'est vraiment de se poser les bonnes questions, non seulement au niveau mental, parce que là, la décision, elle vient du mental. Elle va se concrétiser au niveau des actes, mais entre deux, on a le ressenti qu'on considère presque jamais. Mmh. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau émotionnel ?
Après avoir arrêté la cigarette, évidemment.
Et même pendant les premiers temps. Et ça, c'est important de passer par cette case-là.
Et Il y a des gens qui arrêtent même avant le mois de décembre.
Hein. Ah bah oui, bah
parce
voilà.
Que moi, je dirais qu'il faut peut-être profiter aussi pour arrêter le tabac de... quand on est malade, par exemple. Tiens,
voilà, il y a des prises de conscience comme ça que la vie pose sur notre chemin, qui peuvent être des déclics, effectivement.
Voilà, ça peut être un déclic. On n'a pas forcément besoin d'attendre ce cap de la nouvelle année.
Alors, on n'a pas besoin. Par contre, c'est ce qui se fait un petit peu traditionnellement dans nos habitudes.
Et justement, voilà. C'est vrai qu'alors, tous ces objectifs qu'on se fixe, que ce soit pour le tabac, pour par exemple tenter une perte de poids, ça, c'est toujours un manque à compenser. Et donc, pour se poser des bonnes questions, comment procéder alors ? Comment réfléchir et se dire, bon ben voilà, si mon objectif c'est mon poids, quelles sont les questions que je dois me poser pour y arriver ?
Alors, avant toute chose, il s'agit de prendre le temps de se poser, de mettre sur papier pourquoi on a envie de faire évoluer les choses.
Ça fait partie des techniques dont on va parler d'ici quelques
minutes. Absolument. Hein,
parce qu'il y a des techniques à adopter et on va développer tout cela d'ici quelques instants sur Radio Fribourg. Ce sera après l'info de 8 bits.
Radio FR. Service compris.
Service compris.
Et nous sommes ce matin avec Lise Jean-Bourquin qui fait plein de choses dans la vie. Mais je vais le résumer très très rapidement. Hein. Vous faisiez de la musique, faites toujours.
Un petit peu, je chante.
Ouais. Ah, chante. Alors, ouais. Bon,
elle vient. Non, je ne vais pas chanter là. Non, pas ce matin. Quelle horreur.
Même pas. Et quoi d'autre dans la vie ? Je préfère le demander, comme ça c'est plus simple. Hein, parce que les fleurs de Bach et tout ça, j'aurais mal résumé les choses.
D'accord. Alors, je suis thérapeute en psychokinésiologie, aromathérapeute et thérapeute en fleurs de Bach.
Et aromathérapeute ?
C'est l'utilisation des huiles essentielles. Vous n'avez pas écouté Service compris du 12 novembre, monsieur ?
Non, alors je l'ai raté.
C'était sur l'aromathérapie, justement.
C'était donc ça, les huiles essentielles.
Exact.
Ouais, bon,
et leur utilisation.
On utilise toujours les mêmes, de toute façon. Hein.
C'est ça.
Hein, moi, j'ai toujours mon petit flacon, ça va bien.
Il vous faut prendre rendez-vous chez moi.
Ça. D'accord. Bon, alors parmi justement les objectifs qu'on se fixe en début d'année, tout ce qu'on essaye de faire, les bonnes résolutions, il y en a qui ont réussi, comme par exemple un message qui nous est arrivé sur WhatsApp, que je retrouve le prénom rapidos, c'est EJB, je sais pas, donc EJB nous dit « J'ai perdu 40 kilos en une année, du 1er janvier au 12 décembre, sur papier c'est bien, mais après il faut le mental, cela se planifie avec un plan de route comme pour tout. » Alors là, ça souligne bien le problème de la résolution, c'est-à-dire que quand on prend une résolution, il faut pas oublier ce que ça implique sur le reste de notre vie, en fait,
exactement.
Que ce soit n'importe quoi.
Alors tout d'abord, bravo, parce que je pense que ça n'a pas dû être évident, que c'est des changements notables sur la durée. Et réussir une telle perte de poids en un an, c'est vraiment fantastique.
C'est énorme.
Voilà. Donc déjà, bravo, du fond du cœur. Ensuite, c'est vrai qu'il y a certains pièges à éviter quand on se fixe des objectifs ou des résolutions. Bah, tout d'abord, c'est de placer la barre un peu trop haute. Par exemple, de se dire, si on a un agenda déjà rempli comme un ministre, de se dire, je vais aller courir 6 fois par semaine, alors que sur papier, dans l'agenda, on n'a déjà pas le temps.
On n'y arrive pas.
Ça va être un petit peu compliqué. Donc, il faut réfléchir un petit peu au-delà. Et puis, il vaut peut-être mieux enchaîner les petites victoires que de devoir assumer un échec cuisant sur un objectif qui était trop haut.
Par exemple, courir 6 fois par semaine, si on sait éperdument qu'on n'y arrivera pas, bah, ça veut dire dégager du temps.
Absolument.
Donc, qu'est-ce qu'on doit sacrifier ? C'est ça la question qu'on se pose ?
Ça, c'est la question, oui, tout à fait. Ensuite, dans les autres pièges à éviter, bah, c'est finalement de se poser la barre trop basse aussi. Parce que les objectifs qui sont trop faciles à atteindre, ben, ils ne développent pas non plus le goût de l'effort.
On les aime bien ceux-là pourtant.
Non, on ne les aime pas. Ils ne développent pas la persévérance, ni le goût de l'effort. Et puis finalement, je pense que c'est sain pour nous d'avoir des défis. Mm-hmm. Et puis encore une autre chose, c'est d'éviter les conceptions trop vagues. Donc du style, je vais me mettre au sport, ou il faudrait que, je devrais peut-être, etc. Qui ne nous montrent rien concrètement pour nous aider à atteindre l'objectif.
Prenons du concret, tiens.
Voilà.
Mon collègue Mike, parlons-en.
Dites-moi tout.
Mike, ça fait quand même 6 mois que je l'entends me dire, je vais aussi comme toi m'inscrire à la salle de gym à côté de la radio. Et d'accord. Ça fait 6 mois qu'il repousse avec des excuses tout aussi bidons les unes que les autres.
Oh là là, je vous vois bien jugeant, monsieur.
Oui, je le juge parce qu'il en a même fait une chronique lui-même sur Radio Fribourg, donc oui. il s'est grillé. Et donc, comment faire pour aider Mike pour que vraiment il puisse aller finalement dans sa salle de sport? Est-ce qu'il en a vraiment envie? Qu'est-ce qui le bloque alors? Voilà, super. C'est ça.
Alors, comment guider la réflexion? Donc, ouais. Je pense que c'est important dans un premier temps de préciser que on est fait principalement de 3 parties. La partie mentale, qui génère quand même plus de 60 000 pensées par jour, qu'on ne commande pas forcément. Vous savez, quand vous avez le petit vélo dans la tête qui est replié, il vous faut un certain moment pour sortir des cogitations. Ensuite, dans le ping-pong, en réponse au mental, on a les actes. Souvent, on décide quelque chose, on fait les actes. C'est ce qui nous tient debout, c'est ce qui nous permet d'avancer, de marcher, de manger, de boire, de dormir, bref, de faire. Et souvent, on a le ping-pong entre les pensées et le faire. Mais là, au milieu, on a encore le ressenti.
Ah, voilà.
Et le ressenti, bien souvent, on l'oublie, on le subit. Les émotions, elles ressortent souvent très fort quand il y en a juste trop, quand on ne les écoute pas. Si on écoute nos émotions, quand elles chuchotent, elles n'ont plus besoin de hurler pour qu'on les entende. Et puis souvent, on ne se dit pas « Ah, il est bientôt 9h, si je me faisais une bonne petite colère, ça pourrait être sympa. » Non, les émotions, elles arrivent souvent comme ça. Et puis là, en l'occurrence, le mental a peut-être choisi de s'inscrire à la salle de sport. Les actes, pour le moment, n'ont pas pu être faits. Donc ça pourrait être très intéressant de voir quelle émotion ou qu'est-ce qui sabote, en fait.
Qu'est-ce qui pourrait déclencher que l'acte suive enfin la résolution, c'est ça, voilà. Le mental.
Oui, alors pour que les actes suivent de manière sereine, sans lutte interne, il est important d'être en totale harmonie entre le mental, le ressenti et les actes.
Et comment on arrive à être en totale harmonie avec tout ça?
Alors, en totale harmonie, ça pourrait déjà être un défi, mais c'est un défi de vie. Ça, on n'y arrive pas tous les jours, ni tout le temps, et je pense que ça, c'est important d'avoir l'humilité de se le dire. Alors, premièrement, je disais, apprendre à s'arrêter, à regarder sur papier, en réfléchissant à nos vies. Est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce qu'il y a quelque chose actuellement que j'aimerais faire évoluer? Et puis, à partir de ce moment-là, de prendre des décisions et faire des choix en toute conscience, en adéquation avec notre ressenti. Parce souvent, on tourne en rond dans notre tête, on se dit « Ah, j'aime pas mon job, j'en ai ras-le-bol de mes supérieurs, ce collègue m'énerve, etc. » Mais on sort jamais de ça. On se demande jamais concrètement qu'est-ce que je vais faire pour sortir de ça.
Eh oui.
Et qu'est-ce que j'ai envie de faire.
C'est la peur, ça.
Par exemple, ça peut être la tristesse aussi. La tristesse d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur. Ou la colère de ne pas avoir réussi de rentrer en relation comme on aimerait. Ou l'impuissance, on se sent coincé parce qu'on ne sait juste plus comment faire.
Alors c'est tout ça, c'est en fait, que ce soit n'importe lequel de ces thèmes, c'est une boucle. Alors comment sortir de cette boucle?
Voilà. Et qu'est-ce que je mets en place et qu'est-ce que j'ai envie? Jusqu'où je suis prête à aller pour arriver à tel ou tel objectif? Et puis après, qu'est-ce que je veux dans mon idéal? Moi, ce que je peux voir au cabinet, les personnes qui viennent, souvent, il y a un gros ras-le-bol de ce qu'elles sont en train de vivre. Mais si je leur dis avec une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? Aucune idée.
Ah oui, c'est ça.
Donc, souvent, on n'est pas bien, il y a un malaise, mais on ne sait même pas comment en sortir. Donc, ce qui est très intéressant, à mon sens, c'est de savoir ce qu'on veut dans l'idéal. Ensuite, d'analyser quels besoins on a pour y arriver.
Et donc c'est là qu'il nous faut du temps et un bout de papier pour essayer de...
Un bout de papier, ou disons d'être accompagné. En tout cas, de prendre le temps d'aller au-delà du « il faudrait que je perde 10 kilos ». Parce que là, concrètement, ça va pas nous aider à faire grand-chose. Si on ne sait pas de quelle manière, comment, quand...
Et pourquoi,
exactement. Ouais. C'est ça.
10 kilos ou toute autre chose, le plus important est peut-être de savoir pourquoi on veut perdre 10 kilos.
Parce que si on a une baguette magique en main et puis qu'on arrive, admettons, à perdre 20 kilos en une journée, comment on se sent après? Au-delà des habits qu'on aurait du plaisir à remettre ou à acheter, au-delà de ça, qu'est-ce que ça va réellement changer? Et vous voyez beaucoup de personnes dans les reportages ou comme ça qui ont eu une perte de poids fulgurante suite à une opération ou comme ça et qui ne se reconnaissent plus dans le miroir et qui mettent un certain temps à apprécier et à apprivoiser
à redevenir une nouvelle personne.
Ouais.
Vu qu'on change, on devient quelqu'un d'autre.
Absolument. Et moi, j'aime pas utiliser le mot changer. J'aime plutôt l'idée d'évoluer vers quelque chose qui nous correspond mieux. Parce que de changer, ça veut dire refuser une certaine partie de nous.
D'accord. Donc, on va vers une évolution. Alors, par exemple, on nous dit courir tous les soirs 5 km. Qu'il pleuve, qu'il neige de nuit ou de jour, même à 23h, manger des pommes le soir. Les mini-objectifs étaient d'avoir la satisfaction d'avoir été courir chaque soir. Et au début, je courais 15 minutes et je marchais 1 km. Après, petit à petit, c'était l'inverse. Alors, est-ce que justement, les éléments que l'on croise lors de nos objectifs, mm-hmm. que sont la nuit, la pluie, la neige, le froid, la non-envie mm-hmm. de sortir, mm-hmm. parce que les saisons jouent un énorme rôle sur notre morale. C'est peut-être justement dans la pire saison qu'on choisit ces objectifs et qu'on a envie de changer des choses. C'est peut-être là qu'on va le moins bien, non ?
Ou la meilleure saison. Parce que quand il fait tout gris dehors, ça nous donne juste envie de retourner à l'intérieur de nous pour se poser les bonnes questions.
Ah, c'est ça.
Voilà.
On Mais est là, bien à l'abri, alors, à l'intérieur de nous.
Là, ce qu'on peut lire dans le commentaire de tout à l'heure, c'est le plaisir d'y être arrivé.
Oui, c'est ça.
C'est ça, la satisfaction d'avoir fait l'effort et d'avoir eu la volonté d'y aller par tous les temps. Et de goûter à cet effort-là et au plaisir et à la fierté d'avoir réussi, ça va au-delà de l'intention d'aller courir.
C'est surtout le résultat, alors, qui nous procure un plaisir et un changement de mental.
Moi, je ne pense pas que c'est le résultat, je pense que c'est le goût de l'effort.
Simplement ?
Ouais.
Mais le résultat compte.
Le résultat, c'est la cerise sur le gâteau, mais avant, il faut un gâteau.
Ah ouais. Bon, ben, l'effort, c'est quand même l'outil, finalement. Mm-hmm. Le résultat, c'est quand même l'aboutissement de ce qu'on veut faire.
Oui,
c'est quand même là qu'on veut aller. Donc.
L'effort sans force. Parce que sitôt qu'on est en lutte avec nous-mêmes, on n'est pas dans le juste. Par contre, si on a un choix qui a été fait en toute conscience, la volonté va suivre de manière pas facile, mais disons pas en lutte avec nous-mêmes.
Ah ben, on va...
Service compris.
Les bonnes résolutions, on en parle avec Lise Jean-Bourquin. Il y a quand même une question qui pourrait être intéressante, qui nous arrive sur le WhatsApp Radio Fribourg. C'est difficile de lutter contre soi-même quand les pensées sont toujours négatives. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux face à ça. On n'a pas tous du positivisme dans la tête, surtout à certaines périodes de nos vies. Mm-hmm. Comment lutter là contre et pour justement avancer et pouvoir se donner de bonnes résolutions?
Mm-hmm. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour cette question.
Ah ben, je vous en prie, madame.
Parce que c'est vrai que souvent, on tourne en rond. On ouais. est dans les émotions négatives, la colère, la tristesse. On retombe dans cette cogitation de jugement, de critique, de culpabilité, etc. Et on a de la peine à en sortir. Et pour en sortir, ce qui est impératif, c'est de s'arrêter. C'est de faire le choix de stopper. De prendre juste, des fois ça peut être 5 minutes, de s'arrêter dans nos tourments, de faire une pause, de s'isoler s'il faut, et juste de choisir de penser à quelque chose de beau. C'est égal quoi, hein ? Ça peut être juste l'idée de se coucher le soir, c'est égal.
Ça suffit.
Mais de choisir de stopper. Et dès le moment où on prend conscience qu'on a cette faculté-là, eh ben y a un monde des possibles qui s'ouvre au niveau de nos pensées. Mais... on ne peut pas se dire, il faut que je pense à autre chose, parce que ben, ça ne va pas marcher.
Ça ne suffit pas.
Non, il faut s'arrêter. C'est capital.
S'arrêter comment ?
S'arrêter dans notre action, s'arrêter dans nos pensées, faire une pause. Vous faites combien de pauses par jour ? Une vraie pause où vous vous asseyez et vous ne faites rien d'autre.
Que d'être assis et de penser ouais. le regard dans le vide ?
Ouais. Une vraie pause. Alors, je ne dis pas ça pendant 30 minutes en lévitation, hein. Mais par contre, juste de choisir... de s'arrêter.
Et voilà, de réfléchir de manière ouais. positive.
Juste de choisir une image de quelque chose qui est calme ou positif.
Alors c'est ça, pas on ne le fait pas souvent.
Et
hein.
ça s'entraîne. Mais vous croyez que les capitaines de navires, ils vont s'entraîner à naviguer pendant la tempête ?
Non, ils vont
non.
aussi...
ils s'entraînent sur les eaux calmes.
Ouais, ouais.
Donc ça, vous pouvez choisir de vous entraîner aussi quand tout va bien. De faire des pauses, de s'arrêter, de choisir une image positive, de respirer un grand coup et de poursuivre. Et puis... bah tiens, ça pourrait être un de vos objectifs. De décider qu'une fois par jour, pendant 5 minutes, vous ne faites rien.
Ça peut être pas mal.
Voilà. Et ça... comment on se sent quand on fait rien ?
Donc il n'y a pas besoin de beaucoup alors. 5 minutes suffisent, c'est ça, hein.
C'est ça. Et puis après, de vraiment décrire comment je me sentirais. Alors peut-être que dans un premier temps, ça peut stresser. Si on a une liste des tâches qui est interminable, de se dire je vais prendre 5 minutes pour m'asseoir, ça peut sembler complètement incohérent. Bon, alors qu'en fait, on est plus efficace après.
C'est ça, ouais, effectivement. En se posant 5 minutes, on peut gagner pas mal de temps en évitant de tourner en rond sur la prochaine tâche.
Parce que
ça permet de réfléchir.
Ouais,
alors, si je puis me permettre, on va faire le contraire de ce que je devrais dire en étant dans la bien-pensance. L'arrêt de la cigarette, finalement, c'est ça. C'est aussi l'arrêt de quelques pauses. Parce que des fois, fumer sa petite clope, c'est le moment où on peut réfléchir à ça. Et donc, comment on fait? Alors, justement, quand on est fumeur, par exemple, et que pour nous, cette cigarette équivaut aussi à cette petite pause qui nous permet de réfléchir et de s'arrêter et de penser positif. Parce que souvent, c'est ça le problème.
Bien sûr, ouais. Est-ce que vous pensez être à même de faire une pause sans avoir une cigarette dans la main?
Ça, c'est la question que...
Les non-fumeurs, ils font comment pour faire des pauses?
Ouais. Et donc, comment on fait?
Alors, bon, c'est complexe, hein. Je le disais tout à l'heure en aparté.
On doit donc effectivement trouver une autre solution, quelque part. Si on a toujours eu cette habitude-là, c'est facile à dire, mais...
Alors, absolument. Et moi, j'ai pas un passé de fumeuse, donc il n'y a surtout aucun jugement de ma part à ce niveau-là, parce que c'est vraiment une question qui est complexe, hein, le tabac. Par contre, pour moi, ce qui serait intéressant de me poser comme question, c'est de me dire, mais qu'est-ce que ça remplit, cette cigarette ? Quelle émotion il y a derrière quand je fume cette cigarette? Est-ce que je fume quand je suis super content pour me féliciter? Ou alors quand je suis triste, quand je suis en colère, quand j'ai besoin de décompresser? Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette cigarette?
Et de voir quel est le déclic, en fait, qui fait qu'on a besoin de cette cigarette et de cette pause qui
arrive. Exactement, voilà. Parce que finalement, quand il n'y a plus la cigarette et qu'il y a cette fameuse notion de manque, c'est de voir, mais qu'est-ce que ça remplissait en moi?
Parce qu'il y a deux manques, il y a le manque physique, purement et simplement, ce manque peut-être justement de s'arrêter,
émotionnel. Ouais, tout à fait.
Et donc, quelles seraient les solutions? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour y combler? Alors, pas le manque physique, mais justement, cet arrêt, cette petite pause et ce moment où on s'arrête deux secondes.
Alors peut-être, ça peut paraître très simple ce que je vais dire, mais juste de choisir de s'autoriser de s'arrêter même sans cigarette.
C'est-à-dire ?
Mais disons que là, j'ai l'impression, en tout cas comme vous le décrivez, que c'est une excuse. C'est bon, je vais fumer ma clope, donc je peux faire une pause.
Oui, c'est une bonne excuse, oui.
Oui, c'est une bonne excuse. Mais c'est quoi d'aller s'arrêter, de prendre une pause sans fumer de cigarette ? Ça implique quoi ? Un jugement de l'autre ? De dire, mais c'est une flemme, il fait une pause alors qu'il n'a pas besoin ?
Pas forcément, mais il faut juste que soi-même, on puisse se mettre dans la tête, je vais faire une pause.
Ah ouais. Et ça, c'est pas courant, hein.
Ah non.
De se dire, non, mais on est des bêtes de travail. On s'autorise presque jamais de faire des pauses.
Et donc, c'est une des solutions aussi, c'est justement de s'autoriser à faire des pauses.
Ben, déjà, de pouvoir rentrer, de casser cette croyance qu'il faut une excuse pour faire une pause.
Ouais, ouais.
Après, c'est toujours une question d'équilibre et de juste mesure. Hein. C'est sûr que si on sort un quart d'heure par heure pour aller faire une pause tranquille sur un banc dehors, je doute que nos supérieurs soient vraiment en accord avec ça.
Si à partir du moment où on est trois fois plus efficace...
Alors tout reste à prouver, c'est sûr.
Ça reste juste à prouver, effectivement. Ouais. Après, et donc justement, ça c'est pour nous lancer aussi sur le goût de l'effort, la volonté douce, sans lutte. Parce qu'on était parti sur cette idée-là. Comment faire justement pour faire des changements dans sa vie sans que ça nous demande un énorme effort?
Oui, et sans que ça soit synonyme de souffrance, en fait. Ouais. Parce qu'on a quand même bien en nous qu'il faut mériter. Qu'il faut mériter d'être bien, qu'il faut mériter un mieux-être, une vie plus confortable. Donc pour ça, on a tendance à se dire qu'il faut rentrer en souffrance. Ça, c'est un petit peu nos croyances judéo-chrétiennes qui sont encore là derrière. C'est « tu souffriras pour être bien ». Par exemple, un régime, si je vous propose un régime amaigrissant qui est hyper facile, vous n'avez jamais faim, vous n'avez jamais la sensation de manque, vous prenez un monstre plaisir, est-ce que ça sonne vraiment juste avec l'idée du régime qu'on a, qui est très restrictif?
Non.
Non, pas vraiment.
Mais pourquoi on s'offre aussi des boîtes de chocolat aux fêtes et non pas des brocolis?
Ah, c'est bon les brocolis, moi j'ai aucun problème avec le brocoli.
Ouais. Des boîtes de brocolis.
Voilà. Ah. Bah après, je pense que manger du chocolat avec plaisir, ça fait tout autant de bien au corps. Parce que si on le mange vraiment avec plaisir, on aura besoin d'en manger un et puis pas 20.
Ouais, la preuve, c'est qu'on a David de Chénans qui nous écrit « Salut Rio et l'équipe de Radio Fribourg. Et bien avec toutes vos discussions, cela m'a donné envie de manger un chocolat de Gottliebert et qu'il nous demande de recevoir de la part d'un fournisseur. Merci et bon appétit. »
Alors, bien du plaisir.
Voilà l'effet qu'on a sur nos auditeurs.
Voilà, manger du chocolat, ce sera la moralité des bonnes résolutions. C'est pas tout à fait là que j'avais prévu.
Non, c'était pas là qu'on voulait venir, hein, je crois. Hein.
Non. Par contre, ben voilà, ce qui me tient à cœur de dire, c'est que forcément d'introduire un nouvel objectif, une nouvelle intention dans sa vie, ça implique peut-être de rechoisir les priorités dans l'agenda et de se poser les bonnes questions. Parce que voilà, si on veut se mettre au sport, si on veut perdre du poids, si on veut, faire des économies, si on veut avoir un impact écologique moins grand, etc.
Ça... On veut tout en fait.
Oui.
Parce qu'il faut faire un choix.
Alors, il y a aussi un équilibre à trouver entre être satisfait de ce qu'on a et puis pas toujours en vouloir toujours plus, de
parce
réussir
tout,
à avoir le bon et le bien.
Ce qui a été cité, là, on se dit, il faudrait que tout ça, en fait,
je puisse... Mais pas à pas. C'est aussi important de savoir voir ce qu'il y a de bon et de bien actuellement, sans toujours vouloir autre chose. Par contre, c'est intéressant de pouvoir réaménager notre agenda en fonction de ce qu'on a besoin et de ce qu'on a envie. Alors, on a des obligations, on a des choses qui sont incontournables, on a des imprévus.
La société nous impose quand même pas mal de choses.
Absolument.
On n'a quand même pas une grosse, grosse marge de manœuvre pour faire les choses dont on a vraiment envie dans la vie.
Absolument.
Après, on peut prendre certains risques pour faire des choses qu'on a envie, mais on est quand même bien conditionné, non ?
Alors, on est bien conditionné, mais après, ça nous appartient de le subir ou non. Ça veut dire qu'on peut aussi choisir de vivre ce conditionnement, entre guillemets, de manière positive, de voir ce qu'il en ressort de bon, de bien, et puis de faire des aménagements. Je pense qu'on a tous 24 heures à disposition par jour et qu'on est libre de les aménager comme on veut. Alors, on a notre travail, certes, ou nos obligations familiales ou autres, mais après, je pense que c'est aussi capital de retrouver ce goût de l'effort. Parce que... il n'y a rien qui est facile dans la vie, qui tombe du ciel, même si on y a du plaisir et puis qu'on essaye de conforter nos émotions positives, il y a quand même une certaine persévérance à avoir. Et moi, je pense que c'est ça qui est subtil, c'est de trouver l'équilibre entre ce goût de l'effort qui cultive notre persévérance, notre résistance et puis notre envie d'avancer et l'écoute de nos émotions. Donc c'est un équilibre à trouver entre ces deux choses, parce que si on commence à devenir centré sur nous-mêmes, à écouter nos émotions 24 heures sur 24, la moitié des personnes, les trois quarts seraient en burn-out la moitié de l'année, et puis la société ne pourrait pas fonctionner non plus. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut complètement avoir une sorte de bienveillance mielleuse envers soi-même, mais il faut
on aimait bien l'idée.
être à l'écoute de nos émotions au profit d'un effort sans force et sans lutte.
Voilà, c'est ça.
C'est subtil, mais...
C'est subtil, mais on a bien compris.
Je développe volontiers avec toutes les personnes qui ont envie de développer. Là, je pense qu'on est pris par le temps.
Ouais, on va développer une autre fois. Hein.
Voilà, ça
mais
marche.
Merci Lise, d'être passée ce matin avec nous, d'avoir donné tous ces bons conseils. Et puis, on rappelle que vous êtes ouverte à donner des conseils personnels.
Absolument.
C'est aussi votre fonction. Si vous avez des questions à Lise, le WhatsApp reste ouvert. Bonne journée à vous. Merci d'être venu dans Service Compris.